Catulmandès, Siméon Charlerie, d'une paisible ménagère qui n'avait de sa vie lu d'autres livres que son paroissien, estimant que lorsqu'une femme a tout le jour durant surveillé sa cuisine, lavé, peigné, habillé ses enfants et ravaudé les chemises de son mari, elle n'a rien de mieux à faire que d'aller reposer son front dès la nuit tombante sur un oreiller plein de rêves honnêtes, d'une excellente ménagère et d'un brave homme, percepteur depuis 12 ans à 3 000 francs d'appointement, naquit une après-midi de juillet dans une très petite ville du nord de la France, un gros et fort garçon qui fut baptisé sous le nom de Charles Anselme Siméon Charlerie. « Siméon Charlerie, voilà un nom, » dit la mère avec complaisance. « Cela sonne comme un gros sou qui tombe sur le plancher. » Siméon, quatrième fruit d'une union régulièrement féconde, fut nourri par Madame Charlerie. Elle disait de lui, « Oh, c'est un ivrogne !»« Bon, » répliqua le père, « ivrogne de lait, sombre de vin. » Siméon sera comme moi, qui ne boit que de l'eau. » À l'âge de 2 ans, Siméon Charlerie était un petit homme qui faisait le désespoir de sa mère parce qu'il ne pouvait manger une tartine de confiture sans la partager généreusement avec sa blouse ou sa culotte. D'ailleurs, il était joufflu, massif et restait volontiers dans les coins, songeur. Ce qui ne veut pas dire qu'il pensait à quelque chose, mais il avait l'air de penser. Son père le proposait en exemple à ses autres enfants, turbulents et joueurs, et disait « Oh, ce sera un homme réfléchi, comme moi !» Il y avait un petit jardin derrière la petite maison du ménage Charlerie. La mère y cultivait des artichauts, des carottes et autres plantes potagères. De roses, il n'y en avait point. Cela tient de la place inutilement. Les enfants jouaient parmi les légumes. Le soleil et les papillons, du reste, font un parterre somptueux du plus morose coin de terre. Il importait peu que l'on couvre à travers des plats d'oignons ou à travers des raies de marguerite pourvu que l'on court. Et les épines des artichauts, lorsqu'il s'agit de déchirer des robes d'enfants, ne le cède en rien aux épines des rosiers. Siméon se mêlait peu aux joies vives des autres garçons. Il était doux, timide. Il n'était point sournois, cependant. Quand il regardait les papillons de loin, sans oser courir après eux, il avait l'air de les trouver trop beaux pour lui. Un soir, entre les deux parties de dominos qu'il avait coutume de jouer après dîner, dans le café situé en face de sa maison, M. Charlerie annonça à ses amis qu'il commencerait le lendemain l'éducation de son fils Siméon. « Il a 6 ans, il n'y a plus de temps à perdre. » Le lendemain donc, l'honnête percepteur, ayant placé sur une table un petit volume, une ardoise et un bâton de plombagine, appela son fils et lui dit gravement « « Approchez, Siméon !» Et en relevant ses lunettes par-dessus ses sourcils, il ajouta « Voulez-vous apprendre à lire, monsieur Charlerie ?» Le résultat d'une 20aine de leçons, qui toutes commencèrent comme la première, et comme la première aussi, finirent toutes par ces mots « Mais monsieur Charlerie, vous ne saurez donc jamais lire !» fut chez le jeune Siméon un ahurissement tel et une si grande répulsion pour l'alphabet que la simple vue d'un livre sur une table ou d'une enseigne au-dessus d'une boutique suffisait à lui remplir les yeux de larmes, tout au moins à lui faire prendre la fuite. Dans ces moments, il allait se réfugier parmi les jupes de sa mère qui, la bonne femme, ayant un peu désappris ses lettres depuis sa première communion, avait une sorte de reconnaissance à son fils d'être si attaché à une ignorance qui leur était commune. Il lui semblait que Siméon, quand il saurait lire, ne serait pas à elle comme auparavant. Cependant, M. Charlerie, au dessert d'un dîner de famille, annonça que son élève lirait une fable dans la soirée. Le moment venu, l'enfant prit le livre, chercha la page où il avait coutume d'épeler et lut la fable promise. Il lut « Non, non !» M. Charlerie, en se penchant, reconnut que Siméon récitait la grenouille et le bœuf devant les animaux malades de la peste. Mais dans son orgueil de père et de professeur, il garda pour lui sa découverte et s'en consola en pensant « Bon, il aura du moins de la mémoire !» Quand Siméon eut 12 ans, le ménage Charlerie résolut de l'envoyer dans une institution. « Ce sera une grosse dépense, dit le père, et je ne sais si nous pourrons y suffire, car l'éducation des aînés coûte beaucoup déjà. »« Mais nous pouvons renvoyer Marianne, fit observer la mère. « Moi, dit le père, en approuvant la mesure proposée, je jouerai au domino, chez moi, tout seul. » Et Siméon fut expédié. Blond, gros, niais, aux grands yeux ronds, au nez plat, avec son air taciturne et bon, sous des vêtements qui avaient été 2 ans auparavant ceux de son frère aîné, il fut singulièrement tourné en dérision dans l'institution où, moyennant une somme annuelle assez médiocre, on s'était engagé à fortifier, comme il convient, l'enfant du suc de la science. Il supporta patiemment les impatiences des maîtres qui irritaient parfois son défaut presque absolu de faculté compréhensive et avec douceur les duretés de ses camarades qui, le trouvant ridicule, ne lui cachaient point leur opinion. Morose pendant les classes et s'efforçant de deviner pourquoi on le forçait à lire des livres où il ne comprenait rien, seul pendant les récréations, car maladroit de corps comme d'esprit, il eut rompu les jeux où il aurait tenté de se mêler, et il grandissait en s'hébétant. Il avait naturellement l'air étonné. Il semblait qu'il se demandait toujours ce qu'on lui voulait. Il y avait entre les choses du dehors et son esprit une épaisseur qu'il était malaisé de percer. Il fallait donner aux idées une forme tangible ou visible pour qu'elles l'affectassent. Il ne comprenait pas ce qu'on lui démontrait, mais ce qu'on lui montrait. Lui-même, il résumait en images ce qu'il voulait percevoir. Très longtemps, il eut 2 visions singulières. Quand il était d'humeur satisfaite, il voyait devant lui, à peu de distance, entre ses 2 yeux, dans un cadre grand comme celui d'un portrait-carte, un filet d'eau rond et égal qui coulait doucement et tournait sur du sable très uni. Et quand il était en proie à quelques pensées fâcheuses, il voyait à la même place, de même dimension, une petite cascade ébouriffée qui s'enchevêtrait péniblement dans des broussailles. Il jugeait de son calme à la placidité plus ou moins lente du filet d'eau et de son trouble à l'éparpillement plus ou moins hérissé de la cascade. Ainsi, il ne pouvait pas regarder en soi-même. Il fallait, pour la concevoir, qu'il projetât sa pensée et la matérialisât. Cependant, il n'était point bête. Il apprenait difficilement, mais ce qu'il avait appris, il ne l'oubliait pas. Ses impressions étaient rares, mais ineffaçables. Tout petit, il avait vu un chat croquer un oiseau, et cela lui était resté, comme on dit. Et s'il voyait un chat, il avait le frisson. Quand il rêvait, oh, cela lui arrivait peu fréquemment, il rêvait presque toujours d'un oiseau qui croquait un chat, car il avait en lui un très vif sentiment de la justice. Au collège, il eut un compagnon, disons mieux un tyran, Raymond Picard. Raymond Picard était le fils d'un marchand de vin. Il avait été envoyé en pension, non pour faire ses humanités, mais pour apprendre la tenue des livres et autres sciences indispensables à l'industrie et au commerce. On vit, quand il arriva, un garçon de 13 ans, aux cheveux roux, au nez aigu, à la bouche grosse. Ce petit homme était hardi, beau parleur et mauvais pour le plaisir d'être malin. Tout d'abord, il remarqua Siméon Charlerie et, selon son expression, lui mit la main dessus. Il avait flairé un souffre-douleur résigné, il l'empoigna. Le matin, en se levant, il disait à Siméon « Hé, fais mon lit !» Pendant le repas, il prenait les morceaux qui lui plaisaient dans l'assiette de Charlerie. Et quand celui-ci recevait de sa mère des confitures ou quelques tablettes de chocolat, Raymond s'en emparait, les distribuait parmi les élèves en disant « C'est mon père qui m'envoie cela !» et ajoutait en se tournant vers Siméon « T'en veux pas, toi !» Enfin, lorsque Raymond Pichard avait commis quelques fautes dont on recherchait l'auteur, il disait à sa victime « Allez, va dire que c'est toi !» Et il était obéi. Charlerie n'aimait point son despote. Il l'admirait. Inventeur de jeux bruyants et compliqués, diseur de bons mots, conteur d'histoires modernes, Raymond lui apparaissait comme un être à part. Et lui, Candide, il considérait avec étonnement les allures viriles et la corruption précoce de son camarade. Il ne les enviait pas parce qu'instinctivement, il sentait qu'il y avait en elle quelque chose de répréhensible, mais il en subissait l'influence dominatrice. Un jour, en entendant Raymond Pichard raconter avec main détail qu'aux dernières vacances, près d'un lavoir, il avait pincé le bras d'une blanchisseuse, Siméon rougit considérablement. Mais, levant les yeux, il regarda, comme on regarde l'Arc de Triomphe, l'être qui avait osé faire cela. Cependant, Raymond Pichard quitta bientôt le collège où il avait peu appris et beaucoup enseigné. Il avait 16 ans. « Adieu, dit-il à Siméon, tu es mon ami. Je t'ai aidé de mon expérience. Si nous nous retrouvons dans le monde, je t'aiderai encore. En toutes circonstances, tu me trouveras prêt à te soutenir de mes conseils. Tu n'es pas fort. Tu auras besoin de moi. Allez, maintenant, je crois que tu as 10 francs dans une tirelire. Allez, va me les chercher. » Siméon courut et apporta les 10 francs. « Très bien, dit Raymond. Si tu avais donné cet argent à un ingrat, il n'aurait pas manqué de te dire « Je vous le rendrai. » Il te l'aurait peut-être rendu. « Non, mais moi, je te dis, tu le reverras jamais, parce que je suis ton ami. » « Seulement, il est bien m'embrasser. Voilà comment j'entends l'amitié. » Simon Éon, en pleurant de tendresse, embrassa son camarade, puis ils se séparèrent. Siméon fut stupéfait d'être libre. Il en fut gêné aussi. Raymond Pichard, qui lui évitait la peine de penser, lui manqua. Il proposa à chaque élève tour à tour de lui faire son lit. Tous les élèves, naturellement, consentirent. Mais il consentait, il n'ordonnait pas. Il n'y avait rien d'obligatoire pour Siméon dans ce qu'il faisait. Il n'obéissait pas, il rendait service. Sans concevoir pourquoi, il n'était pas satisfait. Pendant le temps, en repas, il offrait sa part, avant d'y toucher, à son voisin. Mais celui-ci, en acceptant d'ailleurs, lui disait merci. Jamais Roméo Pichard ne lui avait dit merci. Siméon, dont les idées étaient obscures, répétait souvent dans la solitude de son indépendance « Oh, c'était mon ami, celui-là !» Peu à peu, à force de compulser patiemment des volumes d'histoire et des dictionnaires, il était parvenu non pas à comprendre ce qu'il contenait, mais à l'apprendre par cœur. La géographie eut même quelque attrait pour lui à cause de la map-monde et des cartes. Là, il concevait parce qu'il voyait. Il en arriva à dessiner de mémoire, avec tous leurs détails de versants et de fleuves, de forêts et de sable, des régions très compliquées, sans omettre la plus petite ville dont le nom, tracé d'une écriture méticuleuse, enjambait de sa dernière lettre, comme d'un point, la mince ligne blanche et noire qui figurait un fleuve. En ce qui concerne les choses littéraires et philosophiques, il se maintenait dans une stupéfaction perpétuelle. Néanmoins, vers la fin de sa 19e année, il savait à peu près de quoi lire et de quoi être reçu bachelier. Il subit l'examen et fut admis, avec compassion. C'était à cette époque un grand garçon extraordinairement gras, aux yeux de veau, au nez large, sans front, sous des cheveux jaunes. Il avait la lèvre inférieure pendante, mais sans bassesse, étant faible et bon. Il marchait d'un pas sourd et craintif, comme on marche dans la chambre d'un malade. Ses bras, presque toujours appliqués verticalement à son corps, ne se hasardaient qu'à des gestes rares et, une fois osés, les maintenaient plus longtemps qu'il n'était nécessaire, ce qui produisait de brusques et burlesques désaccords entre le geste et la parole. Mais cet inconvénient n'était pas grave, parce que Siméon parlait peu. En somme, il avait l'air pesant et excellent. Bachelier, Siméon Charlery retourna auprès de sa famille, qui, à l'occasion de l'examen glorieusement subi, donna un dîner où furent invités tous les personnages importants de la ville. Prié de monter un échantillon de sa science par les bonnes gens qui se souvenaient, les larmes aux yeux de l'avoir entendu autrefois dire la grenouille et le bœuf, il récita, non sans rougir, quelques pages de Malebranche sur la vision de Dieu. Ce petit divertissement fut très goûté. Une vieille dame qui tenait le bureau de poste s'écria « Oh, c'est une belle chose que de parler latin !» Enfin, Siméon eut un succès. M. Charlery disait modestement « C'est moi qui ai commencé son éducation. » On le voit bien, chuchota un gros homme qui faisait la chronique locale dans le chef-lieu. « Hein, que dites-vous ? » demanda brusquement Madame Charlery. « Ben, je dis, madame, qu'avec de pareilles dispositions, monsieur votre fils, un jour ou l'autre, pourrait bien devenir ministre. » « Il le sera avant vous, toujours, » dit la mère, qui avait mieux entendu que le journaliste le pensait. Ce petit incident n'eut pas de suite. On servit le café. Siméon récita quelques vers de l'abbé de Lille sur cette aimable liqueur. Oh, l'enthousiasme connut plus de bornes. M. Charlery, penché vers l'oreille de sa femme, dit tout bas, « Je crois, ma chère, que le garçon ira loin. Il plaît. » Les jours suivants, tandis que Siméon considérait avec une émotion profonde les choux et les carottes que Madame Charlery n'avait pas cessé de cultiver, il fut grandement en question entre le père et la mère de la voie où diriger les facultés surprenantes de leur fils. L'excellente femme aurait voulu que l'enfant demeurât auprès d'eux. avec son intelligence et sa figure, car elle le trouvait beau, il ne manquerait pas d'épouser la fille de quelque propriétaire et ferait aussi une bonne maison, que Madame Charlerie, d'ailleurs, conduirait, parce que les nouveaux épousés n'entendent rien aux choses du ménage. Mais le percepteur objecta. « Mais y pensez-vous, ma chère, notre fils aurait appris le latin, le grec et la géographie pour devenir une espèce de fermier. Après avoir allumé la lumière, nous la mettrions sous le boisseau. Mais jamais. Il faut que Siméon aille à Paris. Paris est la seule ville où le développement d'aucune force ne se rencontre d'obstacles. Là, il se trouvera à l'aise. Dès les premiers temps, sans doute, il n'y gagnera rien. Il faudra nous résigner à quelques nouveaux sacrifices. Mais bientôt, il fera son chemin. Et par une juste rémunération, il rendra notre vieillesse riche et glorieuse. Qu'il aille donc à Paris, dit la mère. Cette résolution, communiquée à Siméon, l'a hurie. Paris, capitale de la France, dit-il. Mais il ne fit pas d'autre objection. Madame Charlerie s'occupa immédiatement des vêtements qu'il emporterait. Un frac noir, dont le percepteur ne servait peu, fut savamment accommodé à la taille du jeune homme. 12 chemises de belle toile, un peu jaunes, à côté de quelques vieilles jaquettes rabaudées avec génie et d'un costume tout neuf, qu'avait taillé et cousu une couturière à la journée, d'après un habillement prêté par le notaire qu'il avait rapporté de Paris, 5 ans auparavant, s'entassèrent dans une longue malle recouverte de bandes de poils gris, alternant avec des bandes de bois noir et bordées de cuir rouge découpé. De sa part, M. Charlerie s'occupait de son fils. Il s'efforçait de retrouver dans sa mémoire les noms des personnages influents qu'il connaissait à Paris. Il avait été lié autrefois avec un industriel, aujourd'hui gérant d'une administration gouvernementale. Cet ami, à coup sûr, n'en avait point oublié. Et il dit à Siméon, « Tu vas le voir dès ton arrivée à Paris et tu y remettras cette lettre. » Lettre dans laquelle le bon percepteur recommandait son fils à son ami et le lui confiait. Enfin, ayant été embrassé par un nombre considérable de personnes dont les larmes gâtèrent les épaules de son bel habit, Siméon monta en wagon. Il avait 300 francs dans une poche et dans un petit sac de cuir, une moitié de saucisson avec un peu de pain et 3 pommes. Dès que Siméon Charlerie eut mis le pied dans une rue de Paris, il fut instantanément dévoré par une irrésistible ambition, celle de voir la terre s'entrebâiller sous ses pas. La ville lui apparaissait comme une fourmilière de géants. Il lui semblait que les passants avaient des bottes de 7 lieues. Les maisons l'épouvantaient comme des montagnes. Il avait le vertige en regardant le balcon d'un 4e étage. Après celui d'être englouti, qui ne s'était pas réalisé, son premier désir fut de repartir immédiatement pour sa petite ville, mais il n'osa point à cause de son père. Il rôda, hésitant et poltron. Il demandait pardon aux gens qu'il côtoyait. Il ne savait que devenir. Il avait très faim et aussi très soif, parce que le saucisson altère. Mais il ne mangea que fort tard dans un petit hôtel où il se décida enfin à entrer, après l'avoir considéré pendant plus d'une heure du trottoir opposé, son sac à la main. Le lendemain, l'ami de son père le reçut assez bien. « Ah ah !» dit-il, « vous voulez un emploi ? C'est bien naturel, mais des emplois. Est-ce que vous croyez que j'en ai dans ma poche ? Si vous étiez avocat, une place dans les bureaux du contentieux, cela pourrait se trouver en cherchant, on verrait, mais vous n'êtes pas avocat. Je suis l'ancien ami de votre père. Qu'est-ce que cela prouve? Que j'ai été son ami autrefois, ou il y a très longtemps. Enfin, voulez-vous que je vous dise? Faites votre droit. Siméon employa 3 longs jours à s'efforcer de comprendre les paroles de son protecteur. Il résolut en définitive de les écrire telles qu'elles avaient été prononcées, car il avait une excellente mémoire, et de les transmettre à M. Charlery, percepteur. Et celui-ci répondit à son fils, « Mon ami s'est fort bien expliqué et il t'a donné un excellent conseil. » De sorte que, sur les indications de son père, Siméon prit sa première inscription à la faculté de droit. Pendant 3 ans, Siméon traversa la vie sans la voir et sans s'y mêler. Il allait, venait, travaillait. Les robes d'organdi le long des haies d'aubépine n'habitèrent jamais ses songes inquiets de la besogne du lendemain. Il ne connut pas les tendres péchés. D'autres s'en allaient dans le plaisir et dans les bois. Il les voyait passer, rancogniers. Il exista des tentatives compatissantes qui, le voyant seul, venaient lui dire que c'était dimanche et qu'il faisait du soleil. Rougissant, il répondait « Vous vous trompez, mademoiselle, c'est mardi et je crois qu'il pleuvra. » Il les regardait s'éloigner comme il regardait autrefois les papillons dans le jardin de sa mère. Il rencontra un jour Raymond Pichard. Celui-ci alors jouait à la bourse. Il avait gagné, il avait perdu. « Bonjour, Siméon, dit-il, tu vas bien? Mais tu es très gras. Allez, prête-moi 20 francs, nous dînons ensemble. » Après le dîner, Raymond conduisit son ami dans un petit théâtre. On jouait une féerie où figuraient des dames peu vêtues. « Oh, oh !» dit Siméon. « Eh ben quoi ?» fit Richard. « Rien !» dit l'autre. Mais il sortit en prétextant qu'il avait oublié son mouchoir au restaurant et il ne donna point son adresse à Raymond Pichard. Cependant, il étudiait le droit romain. Il apprit le digeste par cœur. Il tenta plusieurs examens et fut admis avec miséricorde. Il retourna chez l'ancien ami de son père. « C'est moi, je suis avocat. »« Hein ?» dit l'administrateur. « Mais je ne vous connais pas, qui êtes-vous » « Siméon Charlery, » balbutia le jeune homme. « Oh oui, je sais, Siméon Charlery. Bien, qu'est-ce que vous me voulez ?» Siméon, épouvanté, chercha la porte des yeux. Oh, je devine un emploi. Oh, vous croyez qu'il suffit d'être avocat pour obtenir un emploi? Mais c'est une erreur, mon jeune ami. Enfin, j'essaierai de faire quelque chose pour vous. Voulez-vous une place d'expéditionnaire? Il y a une vacance, profitez-en. Siméon en profita et fut dès lors le plus heureux des hommes. Il ne lui était pas nécessaire de penser. Il était un des 1000 ressorts d'une mécanique. Né automate, il se mouvait avec la joie de ne point avoir à préméditer ses mouvements. Le métier d'expéditionnaire était précisément celui qu'il lui fallait copier. C'est une façon d'agir. Dès le jour, il quittait le lit. Après avoir arrêté le réveil matin qui lui avait enjoint de se lever, il nettoyait lui-même sa petite chambre, faisait cuire 2 œufs à la flamme d'un fagot, achevait quelques besognes pressées qu'il avait apportées des bureaux afin de ne point demeurer oisif, puis, confortablement vêtu, un parapluie à la main, il sortait content. Il n'avait pas une seule fois soulevé le rideau de sa fenêtre pour voir s'il y avait du soleil dans le ciel. En chemin, lorsque l'heure du travail n'était point venue encore, il lisait les affiches, non pas celles des théâtres, mais celles où il était question de vente d'immeubles. Dès qu'il y trouvait un mot dont, jusqu'à ce moment, l'orthographe lui avait paru douteuse, il se hâtait de le copier sur une page de son portefeuille afin de pouvoir, à l'occasion, l'écrire correctement. La journée était tranquille. Il se complaisait dans l'ornementation des lettres capitales. On le félicitait souvent de sa belle écriture. Il était très sensible à cette congratulation. On lui promit de l'avancement. Le dimanche, il s'ennuyait et se promenait dans les rues en lisant les affiches non loin du bureau fermé. Un jour, il n'était plus expéditionnaire, mais employé. Monsieur Fauvel, son sous-chef, l'invita à dîner. C'était une faveur. Siméon s'enorgueillit justement et ne manqua pas de revêtir le frac noir de Monsieur Charlery, percepteur. Ce sous-chef était un sexagénaire qui venait d'épouser une toute jeune femme assez jolie. Il reçut Siméon avec paternité, lui prédit un bel avenir dans l'administration, le recommanda à la sympathie de Madame Fauvel et le contraignit à manger 3 fois de chaque plat. « Oui, mon jeune ami, disait-il, un jour vous serez sous-chef comme moi. Clémence, je crois que M. Charlery reprendrait volontiers un peu de poulet. » Siméon était repu tant il avait consenti aux instances de son supérieur. Mais il eût crevé dans sa peau plutôt que de refuser une aile de volaille offerte par les petits doigts roses de Madame Fauvel qui lui souriait. Et dès ce jour-là, Siméon Charlery fut amoureux. Il était temps. Mais il fut amoureux sans le savoir. Si quelqu'un était venu lui dire « Vous adorez Madame Fauvel !» il eût été prodigieusement surpris. Pourtant, il se serait fait tuer pour elle. Oh, il ne rêvait plus d'un chat croqué par un moineau. Il voyait chaque nuit Madame Fauvel, souriante, lui offrir une aile de volaille. Il se souvenait des moindres paroles de la jeune femme. « Julie, vous servirez le café dans le salon !» était une phrase qu'il avait incessamment dans les oreilles. Le sous-chef, vantant sa femme, avait dit qu'elle s'entendait fort bien au chaud de la cuisine et qu'elle excellait surtout dans l'art d'apprêter les macaronis à la napolitaine. Siméon dîna tous les jours dans un restaurant italien et ne mangea plus que du macaroni. Le matin, avant d'aller au bureau, il se promenait sous les fenêtres de son sous-chef. Le dimanche, il ne s'ennuyait plus, guettant Madame Fauvel à l'heure de la messe, puis à l'heure des vêpres. Il la suivait à l'église, mais il ne l'y regardait pas, parce qu'il était très pieux. Quelquefois, il dînait chez son supérieur. Oh, ce jour-là, il sortait de table ébloui et repu. Il se croyait ivre. Pendant qu'il travaillait au bureau, il se berçait dans des rêveries moins informes. Un jour, il écrivit le mot « Clémence » en copiant un rapport ministériel. Il orna si magnifiquement de paraphes multicolores et de traits délicats que lorsqu'il remit le rapport à M. Fauvel, celui-ci s'écria « Oh, mais voilà un mot superbement écrit !» Et c'est justement le nom de ma femme. Oh, je montrerai cela à Madame Fauvel. » Mais en agitant ainsi, Siméon agissait instinctivement. L'idée qu'il aimait la femme de son supérieur ne lui était même pas venue. Il ne songeait pas à se demander pourquoi il faisait maintenant ce qu'il ne faisait pas auparavant. Incapable encore de discerner les choses de la passion avec celle du devoir, il suivait Madame Fauvel à l'église, méthodiquement, comme il allait au bureau.